Le problème, c'est qu'on va vers un dérèglement, c'est que le cycle de l'eau est en train de se dérégler complètement.
Il faut que le transport rentre dans la bataille du climat. C'est pour ça qu'un des grands objectifs demain dans la mobilité, c'est que la mobilité doit être inclusive.
Quand Kennedy dit « we choose to go to the moon », nous avons décidé d'aller sur la Lune, et bien il a décidé.
Chroniques européennes, animées par Ulrike Heugeveld.
Eh bien bonjour et bienvenue dans l'émission Chroniques européennes sur Euradio. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Charles Goerens. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, avec grand plaisir.
Alors Monsieur Goerens, vous êtes député européen luxembourgeois, membre du Parti démocratique. Vous avez notamment été ministre de l'Environnement, de la Coopération, de l'Action humanitaire et de la Défense de 1999 à 2004. Vous avez également exercé plusieurs mandats en tant que député européen et vous avez été réélu aux dernières élections européennes de 2019. Vous faites partie du groupe Renew et vous êtes notamment vice-président de la Commission des affaires constitutionnelles et membre de la Commission du développement et de la sous-commission des droits de l'homme. Alors, Monsieur Goerens, vous êtes l'un des rapporteurs au Parlement européen pour le nouvel instrument de coopération de l'Union européenne dans le cadre du nouveau cadre financier pluriannuel, plus connu sous l'acronyme anglais MFF, pour les années 2021-2027. Ce nouvel instrument, il répond au doux nom d'instrument de voisinage de coopération au développement et de coopération internationale. Je vais éviter aux auditeurs son abréviation qui n'est pas très facile à prononcer en français. Et ce méga instrument, doté d'une enveloppe considérable de presque 80 milliards d'euros sur 7 ans, il fusionne en fait un certain nombre de programmes précédents. Est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur Goerens, s'il s'agit avec cet instrument d'un véritable tournant pour la politique de coopération européenne?
Oui, d'abord, c'est le NDICI, le MFF, c'est le Multi Financial Framework. Ça, c'est la projection financière de toute l'Union européenne sur une période de 7 ans. Et le NDICI, donc l'instrument de voisinage, de coopération internationale, et qui est la fusion de plusieurs instruments encore existants, constitue un instrument de financement de la politique extérieure. C'est un instrument qui permettra à l'Union européenne d'être beaucoup plus flexible que par le passé, du fait qu'elle concentre dans ses mains tous les instruments dont on a besoin pour répondre aux situations qui peuvent se présenter, le cas échéant, dans un pays partenaire. Puis il y a tous les instruments du développement classique, l'investissement dans le développement humain, éducation, soins de santé de base, etc., sécurité. Donc vous avez une panoplie, une boîte à outils multiples pour répondre aux diverses questions et défis qui peuvent se présenter.
Et dans quelle mesure cet instrument, il va dépasser certaines faiblesses qui étaient pointées des instruments antérieurs?
C'est un grand avantage pour l'Union européenne et pour les pays partenaires, parce qu'avant, si vous avez diverses réponses de l'Union européenne à une situation assez complexe donnée, mettons la République centrafricaine, alors vous avez des interventions du point de vue sécuritaire, vous avez des interventions humanitaires, vous avez des interventions qui renouent déjà avec le développement proprement dit. Alors maintenant, vous avez une seule réponse avec plusieurs facettes. Avant, vous aviez une série de démarches qui compliquaient la vie de nos partenaires et aussi de l'Union européenne. Donc, c'est beaucoup plus flexible, ce qui requiert d'un autre côté, et c'est le pendant de cette nouvelle approche. Vous avez aussi un contrôle parlementaire pas si évident, donc on va devoir y mettre de notre grain de sel pour arriver à trouver le juste équilibre institutionnel.
Et le contrôle parlementaire, c'est quelque chose de nouveau, hein. Il n'y avait pas de contrôle finalement du Parlement européen sur les précédents outils, hein.
Il y avait toujours un contrôle ex post. Maintenant, ce que nous avons essayé d'obtenir, c'est une influence, avoir un impact sur la programmation. Donc la programmation, c'est ce que l'Union européenne entend faire les 7 prochaines années. C'est de la phase dans laquelle elle va entrer immédiatement après l'adoption du nouvel instrument de coopération. Et une fois cela lancé, vous avez des partenariats qui s'organisent Vous avez des textes qui sont des indications à moyen terme, donc sur une période de 4 ans ou 7 ans, et le Parlement européen entend influer sur les choix. C'est la raison pour laquelle nous avons obtenu un acte délégué. Un acte délégué, c'est quoi? Mais c'est une délégation que donnent le Conseil et le Parlement européen à la Commission pour agir dans ce cadre. Donc il y a des limites, il y a des priorités, il y a des objectifs, et la Commission doit respecter ces guidelines. Tant qu'elle le fait, pas de problème. Si elle ne le fait pas, le Parlement et le Conseil, ou une institution seule, soit le Conseil, soit le Parlement, peuvent retirer la délégation à la Commission. Donc vous voyez, il y a un équilibre qui se fait en faveur du Parlement européen. On n'est pas encore aussi loin que nous l'avons souhaité, mais quand même, ça va dans le bon sens. Ce travail de rééquilibrage institutionnel est un travail de très longue haleine. Ça a commencé il y a 40 ans, avec le premier Parlement directement élu, et aujourd'hui, le Parlement européen dispose quand même d'une panoplie d'instruments, d'interventions, de monitoring assez conséquent.
Donc vous partagez, Monsieur Goerens, l'enthousiasme, l'optimisme de Josep Borrell, hein, le haut représentant de l'Union européenne à la politique étrangère, qui disait récemment, l'accord dégagé adresse un signal fort donc sur ce nouveau mode opératoire de la coopération, ce nouveau dispositif adresse un signal fort à nos partenaires concernant le rôle de l'Europe en tant qu'acteur mondial sur la scène internationale et sa détermination à demeurer un partenaire fiable. Hein.
En tout cas, le signal qu'émet le nouvel instrument est plus fort que le signal qu'a mis Borrell à Moscou il y a quelques jours. Hein. C'est bien entendu un instrument qui est très bien connu par nos pays partenaires et je crois qu'il est salué. Cela étant, n'oublions pas que nous sommes en présence d'acteurs très puissants aujourd'hui, qui n'étaient pas encore là ou pas avec la même force. Il y a quelques années, vous avez la Chine, vous avez l'Inde, vous avez la Russie qui ont aussi leur mot à dire. Ce qui est nouveau, c'est bien entendu l'instrument en lui-même qui nous apporte plus de flexibilité. Ce qui est nouveau aussi, c'est que le début de mise en application de cet instrument coïncide avec la mise en place de la nouvelle administration américaine. Comme l'Europe jure ou ne jure que par le multilatéralisme, nous avons une bonne opportunité d'explorer ensemble avec d'autres partenaires et notamment les États-Unis les voies de relance du multilatéralisme qui est indispensable dans le monde dans lequel nous vivons.
Alors, Monsieur Goerens, la politique de l'Union européenne sur la coopération, elle ne se fait pas simplement à l'échelle de l'Union, mais il y a également la plupart des États membres qui ont des agences et des actions de coopération et de développement. Comment est-ce que la politique européenne, ce nouveau dispositif et les initiatives des États membres vont-elles pouvoir s'articuler?
C'est une très bonne question, c'est une question essentielle. S'agissant de la politique européenne de coopération et développement, elle draine à peu près 20%, je crois que c'est moins de 25% de l'ensemble des moyens consacrés par l'Union européenne, donc Commission plus États membres, à la coopération au développement. La Commission a un rôle très important à jouer dans ce sens. D'abord, elle peut offrir des programmations jointes. Donc, si elle agit dans un secteur donné dans un pays et qu'elle trouve qu'elle n'a pas les moyens suffisants, elle peut toujours faire appel à des États membres qui travaillent aussi au niveau de la coopération au développement dans ce pays pour voir si on peut combiner les possibilités, les efforts, les spécificités de chacun en vue d'avancer plus vite. Donc frapper dur, frapper fort, frapper plus vite et plus efficacement. C'est un peu ça la philosophie de la programmation. En plus, il y a un dialogue. Nous allons avoir un dialogue géopolitique entre l'Union européenne et le Parlement européen pour voir comment on peut répondre aux impératifs de cohérence et de cohésion de la politique de développement. Et ça, c'est un travail du Parlement européen. Nous avons une impulsion politique très importante à donner à la Commission, et ça va être l'objet d'une discussion qui va s'ouvrir aussitôt que possible. On ne va pas passer en revue les coopérations avec tous les pays, qui sont plus d'une centaine, mais ce que nous allons faire, c'est mon point de vue, ce n'est pas encore mis en place, mais ça va se faire dans les tout prochains jours. Qu'est-ce qu'on fait en République démocratique du Congo? Le président de la République démocratique du Congo, il est tout au plus maire de Kinshasa. Le reste du pays, il ne le contrôle pas. Or, là où il est plus difficile à intervenir, parce que l'État congolais n'assume pas ses fonctions régaliennes, ou bien il ne le veut pas, ou bien il ne le peut pas, il faudrait quand même trouver un terrain d'entente. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, il y a de la place pour tout le monde, pour l'Union européenne, pour les États membres, pour les agences onusiennes, pour les ONG. Qu'est-ce qu'on fait dans un espace très large, presque à dimension continentale, où rien ne se fait, où les pires atrocités ont lieu? Alors là, il faut reconstruire petit à petit une gouvernance locale d'abord, et puis sur vous avez ici une école qui fonctionne, là un dispensaire qui se met en place, par ailleurs un lieu de fabrication de génériques, de médicaments. Tout cela, vous pouvez le faire à condition de pouvoir favoriser l'éclosion de ces initiatives dans un cadre sécuritaire. Donc vous avez toutes les disciplines requises pour favoriser ce développement. Et là, l'Union européenne a un rôle important à jouer, mutualiser tous les acteurs, fédérer toutes les forces pour y arriver. Donc c'est un grand défi, et c'est ce qui nous distingue par rapport aux autres acteurs que sont la Chine notamment. Et pour faire court, la différence entre la coopération européenne et la coopération chinoise est la suivante. Je l'illustre à l'aide d'un exemple assez frappant. Au Cap-Vert, par exemple, la Chine a construit le Parlement, mais c'est l'Union européenne qui promeut le principe démocratique. La construction du Parlement au Cap-Vert est quelque chose de visible. La promotion du principe démocratique au Cap-Vert, c'est quelque chose, c'est une marque qui ne fait pas vendre, mais elle est essentielle. Et vous avez là, dans cet exemple, toute la différence qui existe entre les deux coopérations. Les uns tablent sur une prise d'influence, et les autres, je crois que l'Union européenne a quand même une politique de coopération qui est beaucoup meilleure que la réputation que d'aucuns veulent lui faire. Je trouve qu'elle a une place indispensable, non seulement à jouer, mais encore à renforcer.
Alors, Monsieur Guérin, c'est des montants, des budgets considérables hein, qui vont être, on l'a vu, qui vont être mobilisés sur ce nouveau dispositif. L'Union européenne a des équipes suffisantes pour gérer un tel saut.
Ah là, vous mettez le doigt sur la plaie. Hein. Toutes les évaluations qui viennent de l'OCDE, par exemple, qu'il s'agisse des pays, des États membres ou de l'Union européenne, ils insistent toujours sur la nécessité de pouvoir disposer des ressources humaines suffisantes. Et je crois que c'est un peu là que le bât blesse. Le Parlement européen ne fait pas exception dans la règle qui consiste à couper les ailes à l'administration, aux forces dont on a besoin pour mettre en place des programmes, les exécuter. Je crois qu'il faut pouvoir disposer des ressources humanitaires nécessaires, sinon on risque de créer des pannes inutilement. Donc ça, c'est extrêmement important. La Commission européenne, à elle seule, ne peut rien faire. Et n'oublions pas non plus que nos États partenaires, donc les bénéficiaires de notre aide, ont aussi une administration. Il y en a qui ont une gouvernance très acceptable, et ceux-là, il faut les laisser faire. Il faut promouvoir l'aide budgétaire, c'est-à-dire plutôt que de parrainer des projets ou des programmes de coopération au développement, on laisse au pays le choix, dans sa politique budgétaire, de fixer ses priorités. Alors, il y a deux moyens d'influer sur cela. Premièrement, l'aide budgétaire générale. Ça, on donne l'argent nécessaire au pays partenaire et c'est lui qui nous renseigne sur les choix qu'il veut faire. Et après, se fait l'accord sur le financement. Ou bien, si le pays n'est pas encore prêt, on peut opter pour une aide budgétaire sectorielle, c'est-à-dire trouver un accord avec les pays partenaires qui s'engage à faire davantage dans le domaine de la médecine, de la santé, de l'éducation. Donc ça, c'est sectoriel. Vous avez dans toute la panoplie d'instruments presque une réponse à tout. La question est de savoir est-ce que nos partenaires sont prêts? Est-ce qu'ils sont prêts à assumer leurs responsabilités? Est-ce qu'ils sont capables d'implémenter les projets? Est-ce que la durabilité de l'opération sur laquelle on s'entend avec eux est garantie? Voilà en fait les principaux caractères d'évaluation d'une politique. Et l'évaluation, c'est quelque chose qui théoriquement se fait à la fin, mais en fait elle se prépare dès à présent. C'est au début du projet qu'il faut avoir des vues claires sur les objectifs à atteindre, et toute la feuille de route doit respecter ces objectifs. Donc l'évaluation se fait avant, pendant et après l'exécution d'un projet ou d'un programme.
Alors, M. Gerens, merci. Un dernier mot, si vous voulez bien, sur ce nouveau dispositif de coopération au développement. Il y a une mobilisation qui est attendue dans le cadre de ce nouveau programme des capitaux privés hein, aussi. Comment est-ce que cela peut-il fonctionner concrètement ?
Les capitaux privés, bien entendu. Nous ne sommes plus à l'ère de la guerre froide, hein, où il était pratiquement proscrit d'intervenir dans des pays qui étaient plutôt du côté soviétique. Aujourd'hui, ces tabous sont tombés. Le secteur privé a un rôle très important à jouer, à condition de bien l'encadrer. C'est dans le cadre de nos rapports avec les pays en développement que nous devons essayer de tout faire pour prévenir la corruption qui gangrène les sociétés dans nos pays partenaires et aussi les nôtres. Donc l'Union européenne doit être extrêmement exigeante vis-à-vis de ces sociétés qui s'investissent dans cette coopération. Et elle doit aussi montrer la carte rouge aux sociétés qui auraient encore des accords ou des coopérations avec les sociétés reconnues coupables de corruption. Donc je crois qu'il faut éliminer tout ça et préparer un rôle responsable au secteur privé qu'il a certainement. L'État ne peut pas tout faire. Je crois que c'est à André Malraux qu'on doit la phase suivante. L'engagement total de l'État, c'est le début de l'État totalitaire. Donc on a un boulevard de possibilités devant nous et c'est à l'Union européenne, à la Commission, de fédérer toutes les forces publiques et privées, tout en précisant qu'il y a des secteurs où l'État ne peut intervenir que seul et le secteur privé, bien entendu, doit respecter ce cadre.
Alors, Monsieur Gerens, un mot, si vous voulez bien, sur évidemment le contexte actuel, avec évidemment en toile de fond cette pandémie de Covid-19 qui dure hein, depuis un an maintenant. L'Union européenne a pris des engagements forts dans le cadre du programme COVAX pour assurer l'accès des pays en voie de développement aux vaccins. Est-ce que cet engagement, il est désormais mis à mal avec la difficulté qu'on observe dans des pays de l'Union européenne eux-mêmes à s'approvisionner en vaccins?
Écoutez, il faut voir ça dans la perspective un peu plus longue. L'Union européenne a été la première à promouvoir l'accès aux vaccins de tous. Elle a pris cette initiative. Elle est appuyée par le Parlement européen en cela. Elle a été la première à avoir compris que si le reste du monde n'est pas vacciné, nous ne pouvons pas sortir de cette pandémie. Donc c'est sur cette toile de fond que se dessinent les interventions du Parlement européen et nous sommes en contact permanent avec la Commission pour faire aboutir cette tentative, qui est une tentative noble, et je crois que l'Union européenne, ensemble avec les autres acteurs, parce que nous ne sommes pas les seuls à agir, peut faire bouger les lignes de ce point de vue.
Et Monsieur Gerens, vous êtes fortement impliqué sur la question de la viabilité de la dette des pays en voie de développement, notamment avec un rapport sur le sujet lors de votre précédent mandat. Cette question, j'imagine qu'elle prend encore une nouvelle dimension dans le contexte actuel. Est-ce que vous pensez que les initiatives récentes, notamment du G20, soient suffisantes à ce niveau-là ?
Elles sont suffisantes en court terme, mais il faut aborder le problème structurel de la dette, qui est une vraie hypothèque sur le développement des pays africains. Et l'actuelle pandémie montre que si l'Afrique a mieux résisté d'un point de vue sanitaire, elle accuse quand même un coût considérable du point de vue économique. Elle est sans doute le continent qui souffre le plus du point de vue économique de la pandémie. Alors, il faut être conscient de cela. Même dette égale, le poids, après la récession économique que vivent certains pays, le poids de la dette devient plus écrasant. Donc il faut trouver un modèle de gestion de la dette, il faut trouver des moyens de restructuration de la dette, et il faut aussi avoir le courage d'annuler la dette là où c'est nécessaire, où tout autre développement n'est plus possible. Donc, en résumé, je dirais il ne faut pas arrêter de prêter de l'argent aux pays en développement. Il faut sans doute prêter autrement, certainement plus et mieux.
Merci, Monsieur Gerens. Alors, deux questions pour terminer, si vous le voulez bien. Vous êtes sur le Brexit, vous êtes vice-président de la Commission des affaires constitutionnelles. J'imagine que vous suivez évidemment de très près l'évolution des relations avec le Royaume-Uni. Quels sont pour vous les enjeux de la mise en œuvre, les enjeux des prochaines semaines de la mise en œuvre de l'accord avec le Royaume-Uni ?
C'est une question de contrôle du Parlement européen. Je crois qu'il n'y a plus personne et il n'y aura certainement pas une majorité au Parlement européen pour remettre en question cela. Cela étant dit, nous avons encore des coopérations, des pistes à explorer. Le Royaume-Uni nous a quittés. Il va falloir affiner l'accord. Je prends l'exemple qui nous intéresse le plus dans cet instrument, dans cet entretien, pardon. C'est la coopération au développement avec le Royaume-Uni. Nous perdons un contributeur extrêmement important, bien qu'il a décidé de réduire de 0,7 à 0,5% ses allocations au titre d'aide publique au développement par rapport au produit intérieur brut. Il reste un partenaire extrêmement important et j'espère que les relations que nous avions par le passé pourront être sauvegardées pour l'avenir. Donc, mon message est avant tout un message d'espoir.
Vous le voyez comme un grand gâchis, ce Brexit, avec le recul qu'on peut avoir aujourd'hui, ou est-ce que c'est encore trop tôt pour en juger ?
Absolument. C'est un affaiblissement du Royaume-Uni, c'est un affaiblissement aussi de l'Union européenne. Quand vous inscrivez dans la tendance le poids de chacun, on voit déjà aujourd'hui qu'avec le Royaume-Uni, l'Europe perd un membre au G7. Dans quelques années, ce sera le tour à la France et puis à l'Italie, ou bien inversement. Dans une trentaine d'années, il ne restera plus que l'Allemagne. Donc, si les États membres veulent chacun suivre leur politique individuellement, ils ne peuvent pas faire l'économie d'un affaiblissement, d'un déclassement. Et ce déclassement est réel. Par opposition à ce constat, l'Union européenne doit redoubler d'efforts pour mutualiser ses efforts, pour agir en tant qu'acteur unique, en tant qu'acteur soudé, en tant qu'acteur performant. Donc ça, c'est plus, de mon point de vue, c'est plus intéressant que si on prolonge les simples courbes démographiques et économiques. Donc l'Union européenne, avec tout le potentiel qu'elle a aujourd'hui, pèse encore de son poids, mais elle doit être consciente qu'il y a des concurrents qui veulent la déclasser, à commencer par la Chine. La Chine n'est pas aussi innocente que ça en a l'air. Elle commence à montrer de plus en plus son vrai visage. Et c'est à l'Union européenne de trouver aussi des alliances, notamment avec la nouvelle administration Biden, pour faire triompher les valeurs qui sont les nôtres, les valeurs de liberté, de respect, de tolérance, de droit, du principe démocratique, et j'en passe.
Eh bien, je vous remercie très chaleureusement, Monsieur Charles Goerens, d'être intervenu dans Chronique européenne sur Euradio aujourd'hui pour parler notamment de coopération au développement. Je rappelle que vous êtes eurodéputé luxembourgeois. Merci encore.
De rien. Bonne journée à vous.
Et on pourra retrouver cette émission sur les sites internet d'Euradio, euradio.fr ou euradio.be. À très bientôt.